fidélité au programme de VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin dernier, l'actrice américaine Angelina Jolie, envoyée spéciale du HCR, a rendu visite à des réfugiés maliens dans le camp de Goudébou au Burkina Faso. Elle est arrivée au site à bord d'un hélicoptère accompagnée du ministre des Affaires étrangères Alpha Barry. Je célèbre cette journée chaque année depuis 20 ans avec des réfugiés dans différents pays et je n'ai jamais été aussi préoccupée par l'état des déplacements dans le monde qu'aujourd'hui, a déclaré la star hollywoodienne, appelant à soutenir les pays qui accueillent les réfugiés. Nous y reviendrons dans la rubrique « Paroles de femmes ». Twitter a créé une nouvelle option sur sa version arabe pour les personnes souhaitant un vocabulaire féminisé au lieu des seuls mots masculins standardisés. La langue arabe, distinguant le féminin du masculin, notamment à l'impératif, les options tweet ou explore peuvent ainsi s'afficher au féminin. Le réseau social a publié une vidéo montrant des tweets d'utilisatrices critiquant l'absence de forme féminine sur les grandes plateformes et a promis des mises à jour au niveau international en fonction des commentaires d'internautes. Royaume-Uni, 9 écolières et collégiennes sur 10 subissent des insultes sexistes ou des attouchements et reçoivent des images à caractère sexuel, indique un rapport de l'inspection académique. Se disant choquée, l'inspectrice en chef de Lofsted, Amanda Spielman, a déclaré que le harcèlement sexuel n'a pas sa place dans les écoles et collèges. Les inspecteurs ont constaté que de nombreux enseignants et chefs d'établissement sous-estime l'ampleur de ces problèmes. Les établissements scolaires devraient améliorer les dispositifs de signalement et sanctionner les auteurs d'infractions, suggère Lofsted.
Parole de femme.
Le Burkina Faso compte environ 22 000 réfugiés, maliens pour la plupart, en plus d'un million de personnes déplacées par la violence djihadiste à l'intérieur même du pays. La Journée mondiale pour les réfugiés, marquée le 20 juin, a vu la participation de l'actrice américaine Angelina Jolie, qui s'est rendue dans un camp de réfugiés en tant qu'envoyée spéciale du HCR. Un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré.
Au camp des réfugiés de Goudébou, à plus de 260 km au nord de Ouagadougou, nous sommes au Sahel. Au moins 11 000 réfugiés vivent ici. Chacun d'eux veut montrer son savoir-faire. Des réfugiés qui ne s'ennuient pas. Abdou Agbayi, réfugié dans ce camp depuis 8 ans.
Il y a l'électricité, mécanique, auto, plomberie, menuiserie. Faire différentes activités dans le camp. Il y a l'artisanat aussi. Moi, je faisais l'électricité niveau D. Il doit faire un examen cette année.
Walatou Mohamed Ali Brouki, une réfugiée depuis 10 ans ici, a fait une formation en santé.
Je suis venue, j'ai étudié ici. J'ai eu les CP. Et puis j'ai commencé formation de santé. On est à la fin. On a composé l'examen, on attend les résultats. Pali, il y avait rougeole, mais ça va maintenant. Il y en a plus.
Ce n'est pas simple pour tous les réfugiés de mener de petites activités. Wanka Agalsete est éleveur.
On souffre, on est trop fatigué. Bon, on est là. Bon, vraiment, on souffre ici, on souffre. Voilà. Bon, dans ce camp, on est là. Bon, on ne voit rien. Bon, où on est là, même on n'est pas en bon habitué.
De l'autre côté du camp, une cérémonie à l'honneur de ces réfugiés. Les autorités disent les encourager à entreprendre. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères.
Une famille, des personnes ne peuvent pas être assistées toute leur vie ou bien pendant de longues années, c'est même difficile. Et quel que soit le soutien qu'on va vous apporter, ça peut vous paraître insuffisant au regard donc des difficultés que vous avez. C'est de modestes contributions qu'on leur donne, mais elles aussi essaient d'entreprendre comme elles peuvent avec donc les moyens du bord.
Aux côtés des réfugiés, Angelina Jolie, envoyée spéciale du haut commissaire pour les réfugiés, qui témoigne sa solidarité à l'endroit des réfugiés.
Je suis très honorée d'être au Burkina Faso et c'est une grâce d'avoir rencontré tout le monde. Je suis ici pour montrer ma solidarité avec le peuple du Burkina Faso qui continue de recevoir leurs frères et sœurs malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. En partageant le peu de ressources qui disposent, au moment où d'autres pays ayant assez de ressources ont fermé leurs frontières.
Dans ce camp de réfugiés de Boudébo, plusieurs s'adonnent à des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Cependant, la situation sécuritaire du pays continue de leur rendre la vie difficile. Lamine Traoré, Dori, VOA Afrique.
En 1989, 60 000 personnes avaient fui un conflit intercommunautaire en Mauritanie vers le Sénégal et le Mali selon le HCR. Aujourd'hui, la majorité d'entre eux vivent toujours au Sénégal dans des conditions souvent difficiles. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay, a rencontré des parents réfugiés qui, au bout de 32 ans dans le pays, affirment toujours vivre un calvaire, notamment pour l'éducation de leurs enfants apatride.
32 ans.
Apatride, sans emploi ni revenu stable, sans domicile fixe et souvent hébergé dans des maisons en délabrement ou en construction, les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal vivent au jour le jour. À Guinaouraï, dans la banlieue de Dakar, nous retrouvons quelques membres de cette communauté. Mayriba vit ici avec sa famille et pour elle, les conditions sont très précaires.
On survit difficilement au rythme de tracasserie quotidienne pour nous les femmes. Mon mari court de gauche à droite pour trouver de quoi nourrir notre progéniture, mais ce n'est pas toujours évident car des fois nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. L'éducation des enfants, le logement et l'emploi sont aussi des problèmes. On se fait souvent expulser de nos lieux d'habitation à cause du manque de revenus et nos enfants parviennent difficilement à étudier dans ces conditions. Nous sommes fatigués par cette situation.
Son mari, Momodou Lamine Ba, lui emboîte le pas. Pour lui, la situation de leurs enfants est le plus difficile à vivre.
Nous, les enfants d'Adam, nous voulons beaucoup de 32 ans, c'est calvaire,
nous sommes des êtres humains et nous méritons de vivre dans la dignité après 32 ans de calvaire. Nos enfants se battent à l'école et à l'université pour faire partie des meilleurs, mais au final, ils ne peuvent accéder à aucune profession faute de nationalité. Leurs demandes d'intégration ne sont pas prises en compte. Mon fils est né au Sénégal, il a grandi et a étudié ici, mais il ne peut pas accéder au monde professionnel parce qu'il n'a pas de certificat de nationalité. Il est apatride, son père est apatride. Nous n'avons plus de mère. Patrie, nous n'avons rien.
Nous sommes des apatrides.
Face aux conditions de vie difficiles auxquelles ils font face au Sénégal, certains Mauritaniens ont décidé de regagner leur pays d'origine à partir de mars 2008 sous l'égide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un retour pas totalement réussi si l'on se fie à Abdourahmane Sy de la coordination des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal.
24 000 réfugiés qui sont retournés et depuis lors ils sont même revenus, devenus d'ailleurs des réfugiés qui n'ont pas aucune pièce d'identification, qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'ont pas retrouvé leur terre ni leur village, puisqu'on t'a mené jusqu'à 1 km chez toi, on te dit que tu es là aujourd'hui. Donc tu n'as plus le droit même de regagner ton village natal ou ta ville natale, alors que tu avais tout perdu. Donc il n'y avait pas ni de restriction de nationalité, ni de restriction des biens. Et la majorité parmi les 24, il y a eu 1600 qui ont retrouvé leur nationalité. Tout le reste maintenant, ils sont devenus des propres apatrides dans leur propre pays.
Après plus de 30 ans de combat et malgré des résultats mitigés, ces familles de réfugiés au Sénégal ne comptent pas baisser les bras. C'est Dinaba Gueye à Dakar pour VOA Afrique.
Luxembourg, l'Islande et la Suède sont les pays qui ont les meilleures politiques de garde d'enfants parmi les pays industrialisés, selon un rapport de l'UNICEF qui classe Chypre, les États-Unis et la Slovaquie en fin de classement. Les critères sont l'accès, les frais et la qualité des modes de garde d'enfants, ainsi que les congés de naissance. Les États-Unis, la Slovaquie et Chypre se distinguent par la faiblesse de leurs investissements dans les congés et la garde d'enfants. Dans ces pays, un parent peut débourser jusqu'à la moitié de son salaire pour la garde d'enfants. Les États-Unis sont les seuls à ne pas avoir de politique nationale de congé de naissance, souligne le rapport.
Si jeunesse pouvait.
Dans le cadre du mois de l'enfant africain en juin, notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jultap, s'est rendu dans la région de l'Est où l'activité aurifère est en pleine expansion. Dans les villages miniers, les autorités traditionnelles et responsables d'école déplorent l'absentéisme des élèves qui travaillent dans les mines au lieu de suivre les cours.
Dans un silence studieux, seuls 10 élèves de l'école publique du village Mali, dans la commune de Bétaro-Eya, à l'est du Cameroun, affrontent les épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires. Ce jour-là, 7 candidats manquent à l'appel. Le village Mali est le fief de l'exploitation de l'or dans cette région.
L'enfant a pas 7 ans, même l'enfant connaît déjà le travail de l'or, parce que tout le temps, il est dans les trous.
Antoine Adamou, directeur de l'école publique du village Mali.
Malgré la sensibilisation des autorités, du corps enseignant même, les parents, nous réprouvons toujours avec ce problème récurrent. Nous essayons de faire autant se peut pour amener les enfants à gagner les salles de classe, mais c'est avec beaucoup de peine, parce que même la force de l'ordre a été interpellée. On a demandé à ce qu'on interdise aux enfants d'entrer dans les trous les jours ouvrables, mais c'est en vain.
Sur l'effectif de 100 élèves de cours élémentaires 1 et 2, seuls 8 sont présents dans les salles de classe en début juin. L'école a été envahie par les élèves. La plupart des 346 élèves inscrits en début d'année scolaire ont déserté l'établissement. Hermine Zarmo, parent d'élèves.
Nous sommes fatigués pour parler. Tu tapes même, ils ne comprennent pas. Comme ils ont déjà l'argent, tu leur refuses la nourriture, ils sont capables de payer leur nourriture pour manger au restaurant.
Au village Borongo, situé à 20 km de la Centrafrique, dans l'est du Cameroun, les déperditions scolaires inquiètent également le directeur de l'école publique, Dieudonné Kabo.
Je suis ici depuis 2017. Mes deux premières années où il n'y avait pas la découverte, d'or. Les élèves étaient présents jusqu'en fin d'année. Mais depuis 2 ans qu'on parle de Kakou Saint-Justine qui se trouve dans les environs de ce village, les enfants sont attirés par d'aller chercher l'or. Où nous avons alerté la chefferie par écrit, même la hiérarchie par écrit, c'est devenu dégradant.
Les sommes que ces enfants en âge de scolarisation gagnent dans les chantiers miniers sont loin d'être dérisoires. Adrienne Angé habite à Batoum, une autre localité dans l'est du Cameroun.
Depuis que les Chinois sont venus, même un petit de 10 ans va vous sortir 200 000 ici. Et quand il retrouve les 200 000 comme ça, il se dit qu'il a déjà trouvé sa vie au chantier.
Sur les chantiers miniers, aucun de ses enfants ne souhaite s'exprimer sur le phénomène de déperdition scolaire. Les autorités mettent désormais les médias à contribution pour sensibiliser en trois langues locales contre l'abandon scolaire dans les villages miniers, comme sur les ondes de la radio communautaire de Batouri. Mourane Oumarou, chef de chaîne de la radio communautaire de Batouri.
Il y a ces problèmes d'éducation qui est un manque criant pour ces jeunes enfants-là. Mais il y a aussi des incidents qui sont souvent, on va dire, orchestrés dans ces secteurs. Il y a des éboulements, il y a des noyades. C'est tout cela que nous essayons, à notre niveau, de le dire.
La région de l'Est figure parmi les quatre régions où le pourcentage d'enfants non scolarisés est important, soit 13,3%. La situation est plus prononcée en milieu rural qu'en milieu urbain. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique. Selon un rapport de Human Rights Watch, la Corée du Sud ne lutte pas efficacement contre les délits sexuels commis en ligne. Le leader mondial en matière de nouvelles technologies demeure une société peu respectueuse des droits des femmes, souligne l'étude qui dénonce le phénomène des caméras cachées et le revenge porn. Les délits commis avec des caméras cachées sont si fréquents que les policières sont régulièrement contraintes de contrôler les toilettes publiques. En 2019, près de 45% des délits à caractère sexuel commis en ligne n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, souligne Human Rights Watch. République démocratique du Congo, les témoignages sur les violences sexuelles perpétrées au Kasaï se multiplient. Des années après la fin du conflit armé, des milices sont toujours actives, ce qui préoccupe Médecins sans frontières et des ONG qui militent contre les violences basées sur le genre. Le point avec Blanche Sanou.
Entre septembre 2016 et mars 2017, la région du Kasaï a été profondément bouleversée par une explosion de violence entre forces de sécurité et une milice communautaire. Plus de 3000 personnes ont été tuées et de très nombreuses femmes violées selon les Nations Unies. Parmi ces victimes, une jeune dame, mère de 5 enfants, explique avoir été violée alors qu'elle rentrait du marché dans un village situé à 50 km de Kananga.
5 personnes portant des uniformes militaires et des cagoules sont entrées par effraction dans notre maison à travers un trou dans le mur. Ils nous ont ligotés, mon mari et moi. Ils nous ont roués de coups. Ils ont pris notre argent et tous nos biens dans la maison, puis m'ont violée. Je suis venue à l'hôpital de Kananga parce que j'ai peur que ces gens m'aient infectée avec le sida.
Cette veuve a perdu son mari pendant le conflit. Dans cette région riche en diamants, l'ONG Médecins sans frontières se dit très préoccupée de la situation des femmes victimes de violences sexuelles.
Globalement, de janvier jusqu'en avril maintenant, on peut totaliser à 1610 cas. Alors, dans ces 1610 cas, on a beaucoup de tranches d'âge qui se retrouvent dedans. On a les mineurs, et on a les adolescents, les personnes âgées aussi.
La crise est pourtant officiellement finie, mais cette province est encore largement militarisée et les miliciens des Kamuina Nsapu n'ont jamais été véritablement démobilisés. Et puis il n'y a eu quasiment pas de procès pour les crimes commis pendant cette crise.
Si la justice faisait bien son travail, je pense qu'on va réduire les arrangements amiables et aujourd'hui on va remettre la dignité de la femme. Tout ce que la femme dit, c'est sa dignité et réparer les préjudices causés par les bourreaux.
La violence ethnique dans la région centrale du Grand Kasaï de la République démocratique du Congo a contraint plus de 20 000 personnes à fuir leur maison selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 4 ans après la fin du conflit, les violences sexuelles perdurent dans la région.
Anna de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Une jeune Kenyane a fondé une petite usine pour transformer les déchets plastiques en briques de pavage. Ce type d'initiative commence à devenir populaire en Afrique, où des start-up comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire se sont lancées dans des activités environnementales qui attirent de plus en plus la jeunesse. Partons à la rencontre de l'entrepreneur Nzambi Mati, ingénieur en matériaux. Le récit est de Dilidico.
Nzambi Mati est fier de ses briques de pavage ultra résistantes. L'entrepreneur kenyan explique que le secret de leur durabilité réside dans leur composition. Ces briques ne sont pas faites de béton, mais de plastique recyclé.
Hi, my name is Nzambi Mati, founder of Jijenge Makers Limited.
Bonjour, je m'appelle Nzambi Mate. Je suis la fondatrice de la compagnie Jijenge Makers. Ici, à Jijenge, nous fabriquons des produits de construction alternatifs. Et notre premier produit est cette brique de pavage. Notre brique est presque 5 à 7 fois plus résistante que le béton. Et cela est dû à la structure du matériel de base de la brique. Nos pavés sont fabriqués à partir de plastique recyclé.
Son usine, située à Nairobi, transforme d'énormes quantités de déchets plastiques en pavés de briques. Elle en produit jusqu'à 1500 par jour et les emballages plastiques lui sont parfois envoyés directement par les usines. Le ministère kényan de l'Environnement et des Forêts affirme que le Kenya produit 600 000 tonnes de bouteilles en plastique par an, dont 400 000 tonnes utilisées localement et seulement 9% sont recyclées. Mati a déclaré qu'elle ne voulait pas attendre que le gouvernement résolve le problème.
J'étais fatiguée d'être sur le banc de touche, d'attendre que quelqu'un règle le problème des déchets plastiques, d'attendre l'État ou la municipalité ou simplement quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'a motivée en premier lieu. Puis, la seconde motivation, c'était la curiosité de voir si cela pouvait marcher. J'avais vu que c'était possible dans d'autres régions du monde. Alors je me suis demandé si je pouvais appliquer cela au Kenya.
L'ingénieur en matériaux a déclaré qu'elle était également curieuse de relever le défi de la production de masse.
Nous savions comment fabriquer une brique, donc nous devions, si nous voulions mettre ce produit sur le marché, apprendre à en fabriquer 1000, voire 5000, car un projet ne peut pas tenir en une seule brique. Du coup, après avoir compris comment fabriquer une brique, l'étape suivante était d'en fabriquer plus. Il nous fallait donc des machines.
En 2017, Mati a fondé son entreprise Jijenge Makers et envisage désormais une expansion dans l'espoir de produire jusqu'à 4500 briques par jour et recycler jusqu'à 60 tonnes de plastique par an. Elle s'attend à ce que l'entreprise soit rentable d'ici la fin de l'année et elle est convaincue qu'elle est sur la bonne voie.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.